Chapitre 11. Les incertitudes que l'honnête peintre aurait pu conserver encore se dissipèrent au déjeuner. La métamorphose avait été aussi rapide que merveilleuse. Pélopidas, qui paraissait au courant des choses, ayant muni d'instructions très spéciales une abeilleuse de la maison, la tremblante et joyeuse Clotilde avait disparu dans les profondeurs. 50 minutes plus tard, le caricaturiste, qui ne s'ennuyait pas du tout dans ce lieu de pèlerinage, avait vu venir à lui une jeune femme très bien mise, qu'il n'avait pas reconnue du premier coup et qui lui avait serré très doucement les deux mains, en silence, avec une expression sublime. Clotilde était si naturellement, si simplement supérieure à sa condition que, même averti, l'observateur parisien le plus pénétrant n'aurait pas découvert la plus légère disparate pouvant déceler une transformation si soudaine. Gacugnol, qui s'était malicieusement préparé à étudier les points de suture, en avait été pour ses frais et s'était senti pénétré d'une stupeur vraiment extraordinaire. Et maintenant, dans ce café-restaurant du boulevard Saint-Michel, où le cocher venait de les déposer, il cherchait encore à s'expliquer le miracle d'une distinction native dont le germe insoupçonné, charrié dans le courant mystérieux des descendances, après avoir traversé combien d'amalgames impurs, avait fini par se développer en cette créature délicieuse. La toilette de Clotilde était assurément sans aucun faste. C'était la mise la plus ordinaire d'une de ces 300 000 piétonnes de Paris qui ont conquis l'univers sans dépasser les boulevards extérieurs. Costume noir de la plantigrade sans remords ou de la passante laborieuse que 20 000 romans ont décrit et dont le prix ne défrayerait pas le déjeuner d'une souillonne impératrice des Indes. Mais elle portait cet attirail de guerre civile avec la même grâce naturelle que les libellules portent leurs corselets de turquoise et d'or. Sa taille s'était redressée, l'armature impérieuse du vêtement féminin relevait désormais son buste et poussait en haut sa tête soucieuse que les mains pénitentielles de la pauvreté avaient si longuement courbée. Le peintre critique, au comble de l'étonnement, braquait en vain toute son analyse. Il ne trouvait pas l'ombre d'un écart véniel, d'une discordance ou d'un heurt dans les attitudes ou les façons. Même la redoutable épreuve du déjeuner ne donnait aucun résultat désenchanteur. Il voulut savoir si elle levait le petit doigt de la main droite en portant son verre à ses lèvres. Elle ne le levait pas. Il ne remarqua pas non plus qu'elle éprouva le besoin de se cacher la moitié du visage avec sa serviette en parlant au garçon qui les servait, ni qu'elle fît entendre une petite toux mélodieuse en rompant son pain. Elle ne s'écriait pas sur la nouveauté des choses, se bornant à demander, avec l'ingénuité la plus rapide, les indispensables explications et ne s'excusant pas d'avoir bravement faim et soif, ainsi qu'il convenait à une robuste fille dont la faiblesse actuelle était surtout la conséquence de beaucoup d'années de privation et de chagrin noir. Enfin, tout en elle évoquait l'image d'une vive aiglonne grandie jusqu'alors dans les lieux obscurs et reconnaissant aussitôt son ciel. Dans sa parole et dans son visage, il y avait tout juste comme une impression de rapatriement et de renouveau. Elle disait les mêmes choses qu'elle aurait pu dire quelques heures auparavant, étant toujours prisonnière dans le même cerceau d'idées pâles, circonscrite par un polygone de ténèbres. Mais elle les disait d'une voix plus ferme, que les imbéciles n'auraient pas manqué de croire ambitieuse, précisément parce qu'elle était timbrée d'une humilité plus profonde. Sa physionomie n'était pas moins touchante et moins douce, et ses sublimes yeux avaient toujours leur intraduisible expression d'après l'orage, mais son sourire était à peine un peu moins navré. On voyait qu'une peine immense persistait au fond de sa joie, qui ne serait peut-être que d'un jour, et bâtie avec l'illusion de l'illusion, comme les châteaux de vapeur des enfants des pauvres. Cependant, l'excellent repas que lui donnait Gacougnol, et surtout le très bon vin de Bourgogne qu'il fit apporter, dissipèrent, ou du moins refoulèrent jusqu'à la base du cimier noir de sa chevelure, le nuage mobile de son tourment. « Ma chère Clotilde, disait Gacougnol, les anciens juifs avaient un nom pour chacun des deux crépuscules. Celui du matin s'appelait le crépuscule de la colombe, et celui du soir le crépuscule du corbeau. Votre visage de mélancolie me fait penser à ce dernier. Je veux faire sur vous une grande épreuve. Supposez-moi, pour un instant, un très vieil ami que vous auriez perdu l'espérance de revoir et que vous avez eu la joie de rencontrer il y a 2 heures. Dites-vous même, si vous le préférez, que je suis peut-être, qui sait, le bonhomme providentiel, l'instrument désigné pour transformer votre existence, de même que j'ai transformé votre costume, je ne sais pas comment, par exemple, et racontez-moi bonnement votre histoire. Elle est douloureuse, j'en suis persuadé, mais je devine qu'elle n'est pas très compliquée ni très longue. Et nous aurons encore le temps d'arriver au jardin des plantes. Est-ce trop vous demander ? Vous comprenez bien, mon enfant, que j'ai besoin de vous mieux connaître. Je ne sais de vous que votre nom, et c'est à peine si j'entrevois très confusément votre situation. Je me suis quelquefois amusé, comme tant d'autres, à faire raconter leur histoire à de malheureuses diablesses qui me débitaient d'immenses bourdes, me prenant de bonne foi pour quelques jobards, sans se douter que j'étudiais précisément leur façon de mentir. Avec vous, Clotilde, c'est autre chose. Je sens que vous ne devez pas mentir, et je vous croirai. S'il y a quelque circonstance que vous ne vouliez pas ou que vous ne puissiez pas me dire, je vous en prie, ne mettez rien à la place. 2 lignes de point et passez outre, voulez-vous ? Et il enveloppa d'un regard avide cette singulière qui déconcertait son expérience. Clotilde l'avait écoutée avec une émotion qui faisait battre ses artères. D'abord, une aspiration brusque lui avait entr'ouvert la bouche, comme si quelque vision passait devant elle. Puis une fumée rose avait paru flotter un instant sur son visage. Et maintenant, elle regardait Gacougnol d'une manière si vraie, si candide, qu'un rayon de lune, semblait-il, aurait pu descendre jusqu'à son cœur. « J'y pensais, » répondit-elle simplement. Puis, vidant d'un trait sa petite coupe de vieux corton et posant sa serviette sur la table après s'être essuyé les lèvres, elle se leva et vint s'asseoir sur le divan rouge à côté du peintre qu'il avait placé devant lui en pleine lumière pour l'étudier à son aise. « Monsieur, » dit-elle gravement, « je crois en effet que vous avez été mis sur mon chemin par la volonté divine. Je le crois profondément. Je suis très sûr aussi que nul ne sait jamais ce qu'il fait ni pourquoi il le fait, et j'ignore même si quelqu'un pourrait dire, sans craindre de se tromper, ce qu'il est exactement. Vous parliez d'un ami, d'un vieil ami que j'aurais pu perdre ou que je croirais retrouver en vous. Cette parole était bien étonnante pour moi, je vous assure. Vous en jugerez vous-même, car je vais vous parler comme vous désirez que je vous parle, comme je parlerai à cet absent que vous m'avez tant rappelé ce matin, aussitôt que vous avez eu compassion de ma peine. Je vais tout vous dire. S'il y a de la honte, ajouta-t-elle d'une voix un peu altérée, tant pis pour moi. Alors, sans autre préambule, sans aucun lyrisme élégiaque et sans nul détour, sans atténuation ni apologie, elle raconta sa vie déflorée qui ressemblait à 10 000 vies. Mon existence est une campagne triste où il pleut toujours. Son voisin ne songeait plus à l'observer. Dompté par une simplicité inconnue, il savourait en silence, dans la région de son âme la plus ignorée de lui-même, la magique et paradoxale suavité de cette candeur sans innocence. Pour la première fois, peut-être, il se demandait à quoi pouvait bien servir d'être si malin et d'avoir bêtement galvaudé sa vie dans les expérimentations ou les sondages les plus ambitieux, pour arriver à découvrir, à fleur de trottoir, sous un pavé de la voie banale, cette source de cristal qui chantait si bien sa fraîche complainte. Les paroles de ce missionnaire, disait-elle, furent pour moi comme des oiseaux du paradis qui auraient fait leur nid dans mon cœur. Sans le vouloir et sans le savoir, elle ruisselait de ces familières images si fréquentes chez les écrivains mystiques. Le tissu léger de son langage, qui laissait voir les formes pures de la pensée, n'était presque rien de plus qu'un rappel constant des humbles choses de la nature qu'elle avait pu voir. Cette primitive se peignait naïvement elle-même, avec les couleurs en très petit nombre qu'elle possédait, sans égard aux lois perspectives et aux différentes valeurs, ne craignant pas de faire avancer monstrueusement un horizon ou d'éclabousser de lumière certains points obscurs. Mais toujours, elle apparaissait lointaine, minuscule, obombrée, comme exilée de son propre drame, errante et perdue dans des sillons noirs, une petite lampe à la main. Parfois, cependant, elle avait des mots étranges qui déchiraient, ainsi que des éclairs, le fond de son âme. « J'ai cherché l'amour, comme les mendiants cherchent les vipères. » Quand j'ai frappé M. Chapuis, j'ai cru qu'il me poussait un chêne dans le cœur. Et c'était tout. La transparente rivière continuait à travers les bocages de Mancenillier ou les clairières dangereuses de son récit. Rien ne fut omis. Sa chute vulgaire fut racontée sans excuse, avec toutes les circonstances qui pouvaient la faire détester. Elle montra sa misère telle qu'elle était, sans amertume ni ressentiment, rappelant même deux ou trois conjonctures anciennes où cette sorcière avait paru l'aimer sans calcul. Enfin, elle ondoya de la plus insolite poésie son auditeur, à qui elle apparut telle qu'une incroyable virtuose du renoncement chrétien. « Maintenant, dit-elle en finissant, vous savez tout ce que vous avez voulu savoir. Je ne pourrais pas être plus vrai si j'étais interrogée par Dieu même. Pour que rien ne manque à ma confession, j'ajoute ceci. Lorsque, dans la voiture, vous m'avez dit que j'allais être habillée, après m'avoir fait mourir de peur en me disant exactement le contraire une demi-heure auparavant, je vous assure que j'ai complètement perdu la tête à force de joie. J'ai eu comme un éblouissement de folie et de cruauté. Nous allions très vite. Cependant, j'aurais voulu que le cocher déchirât son pauvre cheval pour aller plus vite encore. Mais, depuis que ce rêve s'est réalisé, je suis plus calme et j'espère que vous me trouverez tout à fait raisonnable. » Gacugnol fit un signe pour qu'on lui apportât l'addition, puis, ayant congédié l'homme à la soucoupe, se tourna vers Clotilde et, lui tendant une honnête main qu'elle prit aussitôt, lui parla ainsi. « Mon enfant, ou plutôt mademoiselle, décidément, car je commence à me trouver ridicule d'être si paternel ou si familier. J'ai connu de très hautes dames à qui j'enverrais bien volontiers vos hardes de ce matin. Votre confidence m'a donné pour vous une estime sans borne, en même temps qu'un plaisir extrême que vous ne pouvez guère comprendre, car je vous ai écouté en artiste, et je passe pour un public assez difficile. Je suis donc peu capable de regretter ma curiosité. Cependant, elle a dû vous faire souffrir, et je vous prie de me la pardonner. Ne me dites plus un mot, nous manquerions nos bêtes. En voiture, l'infatigable parleur était devenu silencieux. Il regardait Clotilde avec une sorte de respect vague mélangé d'une évidente perplexité. Deux ou trois fois, il entr'ouvrit la bouche et la referma immédiatement, comme la porte d'un mauvais lieu, sans avoir proféré une syllabe. La jeune femme, attentive au mouvement de la rue, observait la consigne du parfait silence, et ils arrivèrent ainsi, pleins de leurs pensées, à la grille du jardin des plantes. Chapitre 12. Gacugnol s'étant débarrassé de son cocher, ils marchèrent dans la direction présumée du pavillon des Grands Fauves. Mais l'un et l'autre connaissaient peu ce jardin célèbre que fréquentent seuls les Parisiens du voisinage ou les étrangers, et naturellement, ils s'égarèrent. Chemin faisant, Clotilde admira les zèbres et les antilopes, qu'elle s'arrêta pour contempler amoureusement. « Vous aimez beaucoup les bêtes ?» lui dit le peintre, la voyant caresser un de ces charmants êtres dont les yeux ressemblaient aux siens. « Je les aime de tout mon cœur, » répondit-elle. « Je voudrais qu'il me fût permis de les soigner et de vivre près d'elles dans une de ces petites maisons ravissantes qu'on leur a bâties. Leur voisinage me serait plus doux que celui de M. Chapuis. » Ce mot parut agir sur Gacugnol, qui se préparait visiblement à dire quelque chose de considérable, lorsqu'une main se posa familièrement sur son épaule. « Tiens, c'est vous, Marche Noire ? » cria-t-il en se retournant. « Je pensais à vous il n'y a qu'un instant. Comment diable êtes-vous ici ?»«
J'y suis presque tous les jours, » répliqua le nouveau venu. « Mais comment y êtes-vous vous-même ? Je vous assure que votre présence m'étonne. »
À ce moment, ses yeux rencontrèrent Clotilde et devinrent légèrement interrogateurs. Gacugnol fonctionna sur le champ. « Mademoiselle Clotilde, permettez-moi de vous présenter un de nos plus redoutables écrivains, Caïn Marche Noire. Nous l'appelons entre nous le grand inquisiteur de France. Caïn, je recommande à votre admiration Mademoiselle Clotilde, maréchale, une amie que j'ai rencontrée ce matin, mais que j'ai dû reconnaître vers l'an 1000 dans un pèlerinage antérieur. C'est la poétesse de l'humilité. » Marche Noire s'inclina profondément et dit à Clotilde, « Mademoiselle, si mon ami ne se moque pas de moi, vous êtes ce qu'il y a de plus grand au monde. »
« Alors, monsieur, il se moque de vous, n'en doutez pas, » répondit-elle en riant, « et cela me surprend, car vous avez un nom terrible. Caïn, » ajouta-t-elle dans une sorte d'effroi rêveur, « il n'est pas possible que ce soit votre vrai nom. »
« Ma mère m'a fait baptiser sous le nom de Marie-Joseph, mais celui de Caïn figure très réellement sur le registre municipal, par la volonté formelle de mon père. Je signe Caïn quand je fais la guerre aux fratricides, et je garde Marie-Joseph pour parler à Dieu. »
M'expliquerez-vous, mon cher Cagougnol, cette randonnée au jardin des plantes ?»«
Je suis venu pour les lions, » dit à son tour l'interpellé. « J'ai quelques croquis à prendre et précisément nous cherchons leur tanière. »
S'il en est ainsi, vous ne m'aurez pas rencontré inutilement, car vous ne me paraissez pas très au fait et vous auriez certainement perdu la demi-heure du jour qui vous reste.
En ce moment, les animaux féroces ne sont pas visibles pour la multitude, mais je vais vous introduire dans leur maison. C'est un peu chez moi, vous savez.
Quelques minutes après, Marche Noire, ayant frappé trois coups maçonniques à la porte du palais, entrait avec ses deux compagnons dans la galerie intérieure où les fauves achevaient leur repas du soir.
« Voici les lions, » dit-il à Cagougnol, « croquez-les à votre aise. »
Le belluaire en costume de garçon de bureau que vous voyez là fera semblant de vous oublier une demi-heure. Je viens d'arranger cela. Il compte bien entendu que vous ne l'oublierez pas vous-même en sortant. Je vais causer un peu avec mademoiselle. » S'éloignant alors de Pélopidas, qui avait déjà tiré son carnet, il emmena Clotilde à quelque distance et la mit en face d'un tigre superbe envoyé tout récemment par le gouverneur de Cochinchine. Ils étaient à deux pas de la bête, séparés d'elle seulement par une chaîne tendue au-devant de la formidable cage.
« Ne craignez rien, » dit-il à sa compagne, qui tremblait un peu. « Vous êtes hors de portée. Et d'ailleurs, ce tigre est mon ami. Il est ici depuis 3 semaines environ, et il ne se passe guère un jour sans que je vienne le voir et le consoler.
Oh, notre conversation est ce qu'elle peut. Et je ne me flatte pas de parler le tigre sans faute. Mais on se comprend. Voyez plutôt l'aimable accueil. » Le tigre, qui d'abord s'était dressé de toute sa taille contre les barreaux, avait en effet paru se calmer à la voix de son visiteur. Il retomba sur ses pattes antérieures, éteignit la puissante rumeur de ses cordes et parcourut sa cage d'une extrémité à l'autre, évoluant chaque fois par le train de derrière, de façon à ne pas perdre un instant de vue Marche Noire qu'il fixait de ses yeux d'avare défiant, particulier à cette race de félins et qui lui ont valu en grande partie son exceptionnelle réputation de cruauté. Enfin, sur un regard plus appuyé du dompteur, il se retourna et s'étendit de son long, adossé au pied de la grille. Alors, à l'inexprimable terreur de Clotilde, qui n'eut pas même la force de pousser un cri, Marche Noire, penché sur la mobile barrière, passa la main sur le dos de la bête formidable qui s'étira voluptueusement sous la caresse en exhalant un rauquement prolongé dont frémirent toutes les parois. « Vous le voyez, mademoiselle, » dit-il après avoir accompli cette politesse, « on calomnie beaucoup ces créatures admirables, que j'excuserai pourtant d'être enragé de leur ignoble prison. » Pensez-vous que ce pauvre tigre soit si effrayant? Il était dans sa belle forêt de l'Inde il y a quelques mois à peine, et maintenant il meurt de froid et de chagrin sous les yeux de la canaille. C'est pour cela que nous nous aimons. Quelque chose l'avertit sans doute que je ne suis pas moins triste et moins exilé que lui-même. Mais nous avons encore d'autres affinités. Le nom diffamé de sa race correspond à celui de Caïn, dont vous me savez accoutré. Et mon autre nom de Joseph, n'implique-t-il pas la belle robe rayée du patriarche enfant, dont vous voyez que ce captif est revêtu? Je ne saurais vous dire à quel point je me sens solidaire de la plupart des animaux qui sont ici, et qui me semblent en vérité bien plus près de moi que beaucoup d'hommes. Il n'y en a pas un seul, je crois, dont je ne puisse dire qu'il m'a secouru dans la détresse du cœur ou dans la détresse de l'esprit. On ne remarque pas que les bêtes sont aussi mystérieuses que l'homme, et on ignore profondément que leur histoire est une écriture en images. Où réside le secret divin ?
mais aucun génie ne s'est encore présenté depuis 6000 ans pour déchiffrer l'alphabet symbolique de la création. Cette étrange marche noire ayant été fort décrite dans un autre livre, il serait oiseux de réitérer ici sa peinture. Mais l'ignorante Clotilde, qui le voyait et l'entendait pour la première fois, s'étonna d'un homme qui avait l'air de parler du fond d'un volcan et qui naturalisait l'infini dans les conversations les plus ordinaires. L'instruction très primaire de la jeune femme, et surtout l'horrible dénuement intellectuel de son entourage, l'avait peu préparée aux incartades souvent inouïes de ce contemplateur nostalgique, de qui certaines apperceptions, en arrière, étaient quelque chose de déconcertant. Néanmoins, la droiture de sa raison l'avertissait d'une présence intellectuelle qu'il ne fallait pas mépriser. Instinctivement, elle devinait là de la profondeur et de la grandeur, et bien qu'elle eût à peine compris, elle sentit tout à coup la joie d'une pauvresse morfondue qui s'appuierait, sans le savoir, au mur d'un four seigneurial où cuirait le pain des mendiants. « La création, dit-elle, je sais que l'esprit humain ne peut la comprendre. J'ai même entendu dire qu'aucun homme ne pouvait rien comprendre parfaitement. Mais, monsieur, parmi tant de mystères, il y en a un surtout qui me confond et me décourage. Voici, par exemple, une belle créature, innocente malgré sa férocité, puisqu'elle est privée de raison. Pourquoi faut-il qu'elle soit, en même temps, privée de sa liberté? Pourquoi les animaux souffrent-ils? J'ai vu souvent maltraiter les bêtes, et je me suis demandé comment Dieu pouvait supporter cette injustice exercée sur de pauvres êtres qui n'ont pas mérité, comme nous, leur châtiment. Ah, mademoiselle, il faudrait demander auparavant où est la limite de l'homme. Les zoologistes qui font leurs petites étiquettes à deux pas d'ici, vous apprendrez exactement les espèces inférieures, l'animal humain. Il vous dirait que c'est tout à fait essentiel de n'avoir que deux pieds ou deux mains et de ne posséder en naissant ni des plumes ni des écailles. Mais cela ne vous expliquerait pas pourquoi ce malheureux tigre est prisonnier. Il faudrait savoir ce que Dieu n'a révélé à personne, c'est-à-dire quelle est la place de ce félin dans l'universelle répartition des solidarités de la chute. On a dû vous enseigner, ne fût-ce qu'au catéchisme, qu'en créant l'homme, Dieu lui a donné l'empire des bêtes. Savez-vous qu'à son tour, Adam a donné un nom à chacune d'elles, et qu'ainsi les bêtes ont été créées à l'image de sa raison, comme lui-même avait été formé à la ressemblance de Dieu? Car le nom d'un être, c'est cet être même. Notre premier ancêtre, en nommant les bêtes, les a faites siennes, d'une manière inexprimable. Il ne les a pas seulement assujetties, comme un empereur. Son essence les a pénétrées, il les a fixées, cousues à lui pour jamais, les affiliant à son équilibre et les immisçant à son destin. Pourquoi voudriez-vous que ces animaux qui nous entourent ne fussent point captifs quand la race humaine est 7 fois captive? Il fallait bien que tout tombât à la même place où tombait l'homme. On a dit que les bêtes s'étaient révoltées contre l'homme, en même temps que l'homme s'était révolté contre Dieu. Pieuse rhétorique sans profondeur, ces cages ne sont ténébreuses que parce qu'elles sont placées au-dessous de la cage humaine, qu'elles étançonnent et qui les écrasent. Mais, captif ou non, sauvage ou domestique, très près ou très loin de leur misérable sultan, les animaux sont forcés de souffrir sous lui, à cause de lui et par conséquent pour lui. Même à distance, ils subissent l'invincible loi et se dévorent entre eux, comme nous-mêmes, dans les solitudes sous prétexte qu'ils sont carnassiers. La masse énorme de leur souffrance fait partie de notre rançon. Et tout le long de la chaîne animale, depuis l'homme jusqu'à la dernière des brutes, la douleur universelle est une identique propitiation.
Si je vous comprends, monsieur Marchenoir, dit Clotilde en hésitant, les souffrances des bêtes sont justes et voulues par Dieu, qui les aurait condamnées à porter une très lourde partie de notre fardeau? Comment cela se peut-il, puisqu'elles meurent sans espérance?
Pourquoi donc, alors, existeraient-elles? Et comment pourrions-nous dire qu'elles souffrent si elles ne souffraient pas en nous? Nous ne savons rien, mademoiselle, absolument rien, sinon que les créatures, déraisonnables ou sages, ne peuvent souffrir en dehors de la volonté de Dieu et par conséquent de sa justice. Avez-vous observé que la bête souffrante est ordinairement le reflet de l'homme souffrant qu'elle accompagne? En quelque lieu de la terre que ce soit, on est toujours sûr de rencontrer un esclave triste suivi d'un animal désolé. L'angélique chien du pauvre, par exemple, dont les guitares de la romance ont tant abusé, ne vous semble-t-il pas une représentation de son âme, une perspective douloureuse de ses pensées, quelque chose enfin comme le mirage extérieur de la conscience de ce malheureux? Quand nous voyons une bête souffrir, la pitié que nous éprouvons n'est vive que parce qu'elle atteint en nous le pressentiment de la délivrance. Nous croyons sentir, comme vous le disiez à l'instant, que cette créature souffre sans l'avoir mérité, sans compensation d'aucune sorte, puisqu'elle ne peut espérer d'autre bien que la vie présente, et qu'alors c'est une effroyable injustice. Il faut donc bien qu'elle souffre pour nous, les immortels, si nous ne voulons pas que Dieu soit absurde. C'est lui qui donne la douleur, parce qu'il n'y a que lui qui puisse donner quelque chose. Et la douleur est si sainte qu'elle idéalise ou magnifie les plus misérables êtres. Mais nous sommes si légers et si durs que nous avons besoin des plus terribles remontrances de l'infortune pour nous en apercevoir. Le genre humain paraît avoir oublié que tout ce qui est capable de pâtir depuis le commencement du monde est redevable à lui seul de 60 siècles d'angoisse, et que sa désobéissance a détruit le précaire bonheur de ces créatures dédaignées par son arrogance d'animal divin. Encore une fois, ne serait-il pas bien étrange que la patience éternelle de ces innocents n'eût pas été calculée par une infaillible sagesse en vue de contrepeser, dans les plus secrètes balances du Seigneur, l'inquiétude barbare de l'humanité? La voix de cet avocat des tigres était devenue vibrante et superbe. Les bêtes féroces le regardaient curieusement de tous les points de la galerie sombre, et le vieil ours canadien lui-même parut attentif. Clotilde, profondément étonnée, laissait aller toute son âme à cette parole qui ne ressemblait à rien de ce qu'elle avait entendu. Elle écoutait des pieds à la tête, incapable d'une objection, configurant, comme elle pouvait, sa pensée à la pensée de ce pathétique démonstrateur. À la fin, pourtant, elle se hasarda. « Il me semble, monsieur, que vous devez être assez rarement compris, car vos paroles vont plus loin que les idées ordinaires. Les choses que vous dites paraissent venir d'un monde étranger que ne connaîtrait personne. » J'ai donc beaucoup de peine à vous suivre, et, je l'avoue, le point essentiel est toujours obscur pour moi. Vous affirmez que les bêtes partagent la destinée de l'homme qui les entraîna dans sa chute. Soit. Vous ajoutez qu'étant privées de conscience et n'ayant pas à souffrir pour elles-mêmes, puisqu'elles n'ont pu désobéir, elles souffrent nécessairement à cause de nous et pour nous. Cela, je le comprends moins. Cependant,
je peux encore l'admettre comme un mystère qui n'a rien de révoltant pour ma raison. J'entends bien que la douleur ne peut jamais être inutile. Mais au nom du ciel, ne doit-elle pas profiter aussi à l'être qui souffre? Le sacrifice, même involontaire, n'appelle-t-il pas une compensation?
En un mot, vous voudriez savoir quelle est leur récompense ou leur salaire.
Si je le savais pour vous l'apprendre, je serais Dieu, mademoiselle, car je saurais alors ce que les animaux sont en eux-mêmes et non plus seulement par rapport à l'homme. N'avez-vous pas remarqué que nous ne pouvons apercevoir les êtres ou les choses que dans leur rapport avec d'autres êtres ou d'autres choses? Jamais dans leur fond et dans leur essence. Il n'y a pas sur terre un seul homme ayant le droit de prononcer, en toute assurance, qu'une forme discernable est indélébile et porte en soi le caractère de l'éternité. Nous sommes des dormants, selon la parole sainte, et le monde extérieur est dans nos rêves comme une énigme dans un miroir. Nous ne comprendrons ce gémissant univers que lorsque toutes les choses cachées nous auront été dévoilées en accomplissement de la promesse de notre Seigneur Jésus-Christ. Jusque-là, il faut accepter avec une ignorance de brebis le spectacle universel des immolations en se disant que, si la douleur n'était pas enveloppée de mystère, elle n'aurait ni force ni beauté pour le recrutement des martyrs et ne mériterait même pas d'être endurée par les animaux. À ce propos, j'aimerais à vous dire une singulière histoire, une bien singulière et bien triste histoire. Mais j'aperçois Gacougnol qui nous fait des signes. S'il veut m'honorer de la même attention que vous, je pense qu'il me sera profitable à moi-même de la raconter.
Chapitre 13. Garçon, un madère et deux absinthes, commanda Gacougnol, qui venait de s'installer avec Clotilde et Marchenoir dans un café proche de la grande entrée du jardin. La prompte nuit de décembre étant venue sur les animaux et les hommes, les visiteurs avaient décidé de s'asseoir dans ce lieu banal en écoutant le récit de Marchenoir. « Avant tout, dit encore le peintre, permettez que j'écrive quelques mots. Garçon, vous avez un bureau télégraphique à deux pas d'ici? Vous allez porter une dépêche immédiatement, donnez-moi du papier. » Alors, abritant la feuille de sa main gauche, il écrivit rapidement ces simples mots. « Clotilde ne rentre pas. Gacougnol. » Ce télégramme, adressé à Madame Chapuis, disparut à l'instant même. « Maintenant, je suis tout oreille. Vous savez, Marchenoir, que vous êtes à peu près le seul parmi nos contemporains que je puisse écouter longtemps avec plaisir, alors même que je ne vous comprends pas tout à fait. » Je sens votre force et cela me suffit pour être heureux de vous entendre.
Mon cher Gacougnol, répliqua Marchenoir, ne me flattez pas, s'il vous plaît, et ne vous flattez pas vous-même. C'est surtout pour mademoiselle que je vais parler. Et regardant Clotilde,
je ne sais si le nom d'histoire convient exactement à ce que j'ose vous offrir. C'est plutôt un souvenir de voyage, une impression ancienne, demeurée très vive et très profonde, que je voudrais vous faire partager. Vous allez voir que c'est une suite à notre conversation sur les bêtes. Vous avez certainement entendu parler de la Salette, du pèlerinage de Notre-Dame de la Salette. Vous n'ignorez pas qu'il y a bientôt un demi-siècle, la Vierge Marie est apparue sur cette montagne à deux enfants pauvres. Naturellement, on a tout fait pour déshonorer par le ridicule ou la calomnie cet événement prodigieux. Ce n'est pas le moment de vous développer les raisons d'ordre supérieur qui me forcent à l'envisager comme la plus accablante manifestation divine depuis la transfiguration du Seigneur, que Raphaël
avec son imaginative de décorateur profane, a si peu comprise. « Ceci est pour vous, Pélopidas. »«
J'entends bien, » dit l'autre. « Mais je ne suis pas un fanatique de Raphaël. J'admire en lui tout ce qu'on voudra, excepté l'artiste religieux. Sa seule vierge tolérable est celle de Dresde, et encore, c'est une rosière. Quant à sa transfiguration, voici mon très humble postulat. Depuis 350 ans qu'elle existe, un seul homme a-t-il jamais pu prier devant cette image ? À l'aspect de ces trois gymnastes en peignoir qui s'enlèvent symétriquement sur le tremplin des nuées, je déclare qu'il me serait tout à fait impossible de bafouer la moindre oraison. »
Savez-vous pourquoi ? Reprit Marchenoir. C'est que Raphaël, au mépris de l'Évangile, qui n'en dit pas un seul mot, a tenu à faire planer ces trois personnages lumineux, obéissant à une peinturière tradition d'extase, infiniment déplacée dans la circonstance. L'ancêtre fameux de notre bondieuserie sulpicienne, qui feuilletait plus souvent les draps de sa boulangère que les pages du livre saint, n'a pas compris qu'il était absolument indispensable que les pieds de Jésus touchassent le sol pour que sa transfiguration fût terrestre et pour que la parole de Simon-Pierre, offrant les trois tabernacles, ne fût point une absurdité.
Vous parlez de la prière. Ah, c'est en effet le vrai point. Une œuvre d'art prétendue religieux, qui n'inspire pas la prière, est aussi monstrueuse qu'une belle femme qui n'allumerait personne. Si nous n'étions pas hébétés par la consigne des traditionnelles admirations, nous n'arriverions pas à concevoir, que dis-je, nous serions épouvantés d'une Madone ou d'un Christ qui n'aurait pas le pouvoir de nous mettre à deux genoux. Or, voici le châtiment plus terrible qu'on ne pourrait le supposer. Les sublimes imagiers du Moyen-Âge demandaient souvent au bas de leurs œuvres, très humblement, qu'on priât pour eux, espérant ainsi d'être mêlés au balbutiement des extases que leur naïve représentation excitait. Au contraire, l'âme désolée de Raphaël flotte en vain depuis trois siècles devant cette toile d'immortalité. La cohue des générations qui l'admirent ne lui fera jamais d'autre aumône que l'inutile suffrage qu'il a demandé. Peut-être un jour sera-t-il permis enfin d'affirmer que la peinture dite religieuse des Renaissants n'a pas été moins funeste au christianisme que Luther même, et j'attends le poète clairvoyant qui chantera le paradis perdu de notre innocence esthétique. Mais fermons cette parenthèse et revenons à notre sujet. J'ai donc fait un jour le pèlerinage de la Salette. J'ai voulu voir cette montagne glorieuse que les pieds de la reine des prophètes ont touchée et où le Saint-Esprit a proféré par sa bouche le cantique le plus formidable que les hommes aient entendu depuis le Magnificat. Je suis monté vers ce gouffre de lumière, un jour d'orage, dans la pluie furieuse, dans l'effort des vents enragés, dans l'ouragan de mon espoir et le tourbillon de mes pensées, l'oreille rompue des cris du torrent. Je compte bien ne pas mourir sans avoir fixé dans quelques livres d'amour le ressouvenir surhumain de cette escalade où j'offrais toute mon âme à Dieu dans les 100 000 mains de mon désir. J'ai beau patauger depuis 20 ans dans les immondices de Paris, je n'arrive pas à découvrir de quels amalgames de résidus sébacés, de quelles balayures excrémentielles marinées dans les plus fétides croupissoirs, purent être formés les sales enfants de bourgeois que l'événement de la Salette scandalisa, et qui inventèrent je ne sais quelle turpitude pour le décrier. Mais je témoigne qu'à l'endroit même où l'esprit redoutable s'est manifesté, j'ai senti la commotion la moins douteuse, le choc le plus terrassant qui puisse écraser un homme. Sur l'honneur, j'en tressaille encore.
En effet, dit Gagougnol, si vous voulez parler, comme je le suppose, d'une caresse d'en haut, Elle a dû être des 5 doigts de la main divine, car vous êtes une manière de rhinocéros qu'il n'est pas facile d'assommer. Puis, si je suis bien informé, vous devez être fièrement blasé sur les émotions ordinaires.
Oui, je devrais l'être. Ce voyage à la Salette était peu de temps après la mort inexplicable de mon pauvre petit André.
Ici, la voix du conteur parut s'étrangler. Clotilde, qui depuis une heure vivait par cet inconnu dont la parole agissait sur elle avec une puissance inouïe, involontairement avança la main, comme si elle avait vu tomber un enfant. Mais ce geste fut aussitôt réprimé par un autre geste de marche noire, suivi d'un appel vibrant de sa soucoupe heurtée contre le marbre de la table.
« Garçon, cria-t-il, renouvelez !»
Je continue. Vous devinez que je pouvais être dans un joli état d'âme. J'étais venu là sur l'avis ancien d'un sublime prêtre, mort depuis des années, qui m'avait dit « Quand vous penserez que Dieu vous abandonne, allez vous plaindre à sa mère sur cette montagne. »
« Turris Davidica, pensais-je. Il ne me fallait pas moins que les 1000 boucliers suspendus et toute l'armature des forts dont a parlé Salomon. Jamais je ne pourrais être assez cuirassé contre mon épouvantable chagrin.
Et voici que déjà, sur le chemin où je venais de m'élancer, malgré la tempête et les conseils, j'étais indiciblement transporté. Que vous dirais-je? Quand je fus au sommet et que j'aperçus la mère assise sur une pierre et pleurant dans ses mains auprès de cette petite fontaine qui semble lui couler des yeux, je vins tomber au pied des barreaux et je m'épuisai de larmes et de sanglots en demandant grâce à celle qui fut nommée Omnipotentia Supplex. Combien dura cette prostration, cette inondation du Cocyte? Je n'en sais rien. À mon arrivée, le crépuscule commençait à peine. Quand je me relevai, aussi faible qu'un centenaire convalescent, il faisait complètement nuit, et je pus croire que toutes mes larmes étincelaient dans le noir des cieux, car il me sembla que mes racines s'étaient retournées en haut. Ah, mes amis, que cette impression fut divine! Autour de moi, le silence humain. Nul autre bruit que celui de la fontaine miraculeuse à l'unisson de cette musique du paradis que faisaient tous les ruissellements de la montagne, et parfois aussi dans un grand lointain, les claires sonnailles de quelques troupeaux. Je ne sais comment vous exprimer cela, j'étais comme un homme sans péché qui vient de mourir, tellement je ne souffrais plus. Je brûlais de la joie des voleurs du ciel dont le Sauveur Jésus a parlé. Un ange, sans doute, quelques séraphins très patients, avaient décroché de moi, fil à fil, tout le tramail de mon désespoir, et j'exultais dans l'ivresse de la folie sainte en allant frapper à la porte du monastère où les voyageurs sont hébergés.
Chapitre 14. Marche Noire, ce perpétuel vaincu de la vie, avait reçu le privilège ironique d'une éloquence de victorieux. Il n'était pas seulement un de ces ravisseurs évangéliques, rappelés par lui à qui ne résistent pas les légions des cieux. Il était encore et beaucoup plus même un de ces doux à qui la terre fut concédée. Quelle que fût l'occasion de son discours et l'objet dont il s'occupa, on regardait généralement comme une chose difficile de résister à ce nouveau juge d'Israël qui combattait des deux mains. Du premier coup, il vous bondissait sur le cœur. L'image continuelle et qui jaillissait sans effort se précisait par la voix ou par l'attitude avec une vigueur spontanée qui déconcertait la défensive. De même que la plupart des grands orateurs, il apparaissait aussitôt en plein conflit, se grandissant de sa colère contre des ennemis invisibles, et tout le temps qu'il parlait, on voyait en lui s'agiter son âme, comme on verrait une grande infante prisonnière venir coller sa face aux vitraux d'un Escurial incendié. Clotilde, extasiée, pensait au prédicateur tout-puissant qu'il aurait pu devenir. Et Pélopidas, confondu, le contemplait ainsi qu'une fresque très ancienne, à la fois sanguinolente et fuligineuse, où quelques siècles très défunts auraient revécu prodigieusement ses adorations ou ses fureurs. Le narrateur s'était arrêté un moment. Le digne peintre en profitant pour parler un peu, dans l'espérance de cacher son trouble. « Ne pensez-vous pas, Marche Noire, que pour éprouver de telles émotions religieuses, à la Salette ou ailleurs, il faudrait précisément se trouver dans la situation d'esprit qui fut la vôtre ce jour-là, et avoir passé par les mêmes déchirements ?»« Mon ami, j'attendais presque cette objection. Voici ma réponse qui sera claire. Nous sommes tous des misérables et des dévastés, mais peu d'hommes sont capables de regarder leur abîme. Ah oui, j'ai traversé de sacrées douleurs, articula-t-il d'une voix profonde qui leur secoua les entrailles à tous deux. J'ai connu le vrai désespoir, et je me suis laissé tomber dans les mains de ce pétrisseur de bronze. Mais ne me faites pas l'honneur de me croire si étonnant. Mon cas ne paraît exceptionnel que parce qu'il m'a été donné de sentir un peu mieux qu'un autre l'indicible désolation de l'amour. Vous qui parlez, vous ne savez pas votre propre enfer. Il faut être ou avoir été un dévot pour bien connaître son dénuement et pour dénombrer la silencieuse cavalerie de démons que chacun de nous porte en soi. Mais en attendant que vous arrive cette vision d'épouvante, gardez-vous de croire que le secours puisse être indifféremment obtenu dans tel ou tel lieu. « À la Salette ou ailleurs, avez-vous dit. Eh bien, moi, je vous affirme que cet endroit est particulièrement fréquenté par les tonnerres de l'Apocalypse et qu'il n'y a pas d'autre point du globe où puissent aller ceux qui intéressent le dénouement à venir de la rédemption. C'est à la Salette, et non pas ailleurs, que peuvent être fortifiés ceux qui savent que tout n'est pas accompli et que la grand-messe du Consolateur n'a pas commencé. Encore une fois, ce n'est pas ici l'occasion d'entrer dans ces insolites considérations. Écoutez mon anecdote. Je crois inutile de vous dire, Gacugnole, que je ne m'attendais pas à trouver dans cette auberge que l'industrie pieuse a bâti à quelques pas du lieu de l'apparition de puissantes ressources pour mon enthousiasme. Je suis de ceux dont la voix n'a point d'écho, surtout parmi les raisonnables chrétiens que le surnaturel incommode. Le pèlerinage de la Salette est desservi par de pratiques missionnaires qui ne s'égarent pas dans les sentiers du sublime, je vous en réponds. Ils trempent la soupe des voyageurs pour le ciel et logent à pied la vertu sans extravagance. Les exercices pieux ou les labiales exhortations, encadrées avec sagesse, ne nuisent jamais au fonctionnement latéral de la table d'hôte et du perchoir. La computation des ordinaires et des suppléments fusionne avec les cantiques et les litanies sur cette montagne, aussi effrayante que l'Horeb où Notre-Dame des Glaives est apparue dans le buisson flamboyant de ses douleurs. Il est effarant de songer que cette fabuleuse congrégation ne sait absolument pas ce qui s'est passé et que le plus grand effort de ces vachers du sacerdoce est probablement de supposer que la puissance divine s'est manifestée pour qu'ils existassent. Il faut entendre leurs explications du miracle, cet identique boniment qui se débite chaque jour près de la fontaine à l'heure de la digestion. Me voici donc à table, à cette table d'hôtes que je viens de nommer, en compagnie d'une vingtaine de pèlerins quelconques. Les pèlerines sont accueillies dans l'aile opposée du bâtiment, l'un et l'autre sexe étant ainsi répartis de chaque côté du sanctuaire. Deux ou trois prêtres, peu ravagés par les travaux apostoliques, puis je ne sais quel visage, quel ventre, quelle main. Tout cela mangeant et buvant, sans visible souci de quoi que ce soit. Enfin,
La table est vulgaire de n'importe quelle hôtellerie provinciale. Il me sembla même qu'on gueulait un peu. J'avais à peine franchi le seuil que déjà j'entendais nommer Marseille. Cette mention géographique émanait d'un très gros homme barbu, à la face congestionnée, évidemment résolu à ne pas laisser ignorer une origine que, d'ailleurs, son crapuleux accent dénonçait. Mais j'avais de si sonores clairons dans le cœur que je l'entendis à peine, et je ne songeais même pas à me demander ce que ces gens étaient venus faire en un tel lieu. Je mangeais automatiquement ce qu'on me servait. Les convives étaient séparés de moi comme par l'embrun d'un océan. Il est vrai que mon équipage de piétons ruisselants et couverts de boue ne pouvait agir puissamment sur le clavier sympathique de ces dîneurs. Aucun d'eux ne m'avait parlé, et le bavardage ne s'était pas ralenti une seconde à mon entrée. Le goujatisme contemporain ne comportant pas la déférence pour l'étranger. Je pensais précisément à la troisième personne divine lorsqu'une main me toucha l'épaule. M'étant retourné, je vis un personnage à figure triste, vêtu comme un campagnard, qui me dit avec douceur « Monsieur, vos vêtements sont mouillés et vous devez avoir très froid. Voulez-vous prendre ma place qui est moins loin du poêle, je vous en prie. » Il y avait une prière si vraie dans son expression, ses yeux me disaient si bien qu'il se serait cru coupable de tout corridzin dont j'aurais pu être victime, que j'acceptai sur le champ sa place avec la même simplicité qu'il me l'offrait. Cet échange me valut un peu d'attention. L'obèse Marseillais, qui était désormais en face de moi, daigna me regarder de ses gros yeux en faïence, au bord desquels un liquide avait été mis par la volupté d'engloutir. « Eh, là-bas, l'homme aux bêtes » beugla-t-il, s'adressant à mon ami inconnu. « C'est comme ça que vous nous brûlez la politesse ? Vrai, c'est pas gentil de votre part. » J'eus exactement la sensation d'une porte de latrine qu'on aurait ouverte. Le ton de ce mercanti avait quelque chose de si nauséeux, et sa grossièreté cossue paraissait tellement assise dans la graisse d'une prospérité de verra que, du premier coup, la suffocation commença. Les mésanges bleus du ravissement s'envolèrent, et je fus aussitôt replongé dans l'ignoble réalité, dans la très puante et très maudissable réalité. L'interpellé ne répondit pas. Se penchant alors vers son voisin, qui était une des soutanes entrevues à mon arrivée. « Monsieur l'abbé, souffla le gros homme, c'est tout de même vexant qu'il est sans aide place. Ça commençait à devenir drôle. » Puis, élevant de nouveau sa voix odieuse, « Dites donc, mon garçon, vous ne savez peut-être pas que je suis de Marseille, moi. Eh bien, je vous l'apprends. Si vous aviez eu le bonheur de fréquenter cette métropole, vous auriez appris que toute question honnête vaut une réponse. Je vous ai demandé pourquoi vous nous avez quittés comme un lavement. Monsieur qui vous remplace a l'air très aimable, je ne dis pas non. Mais nous étions habitués à votre binette, et ça ne nous aide de ne plus la voir. » Toute la table, déterminée à se divertir bravement aux dépens d'un pauvre diable, faisait silence. « Monsieur, répondit enfin ce dernier, je suis fâché de vous avoir privé de ma binette pour me servir de votre expression. Mais le pèlerin qui m'a remplacé avait froid, et comme j'ai eu le temps de me réchauffer, depuis que vous me faites l'honneur de vous amuser de moi, j'ai cru qu'il était de mon devoir de lui céder ma place. » Cela fut dit sans ironie et sans amertume, d'une manière extraordinairement humble, dans une douceur d'accent presque bizarre, dont je ne saurais vous traduire les faits. Si je vous priais d'imaginer, par exemple, un enfant mourant que vous entendriez parler à travers un mur, ce serait absurde, et pourtant je ne trouve pas mieux. Bref, j'eus l'intuition de quelque chose de très rare, et je devins plus attentif. Je vous épargne les gargouillades facétieuses de chemisiers pour ecclésiastiques, dont l'individu placé devant moi ne négligea pas de nous saturer, à l'extrême satisfaction des mandibules sacerdotales ou laïques. Voici la cause de cette allégresse. Le pauvre être qui servait de plastron à ces brutes était une espèce de végétarien apostolique perpétuellement travaillé du besoin d'expliquer son abstinence. Sous quelque prétexte que ce fût, mademoiselle, il n'admettait pas qu'on tuât les bêtes, et par conséquent, il s'interdisait de manger leur chair, ne voulant pas se rendre complice de leur massacre. Il le disait à qui voulait l'entendre, sans que nulle moquerie fût capable de le retenir, et on sentait qu'il aurait donné sa propre vie pour cette idée. À la fin, l'un des prêtres, un long soutanier qui paraissait avoir enseigné très spécialement la raison dans quelques prytanées de haute sagesse, prit la parole en ces termes. « Je vous demande, comme une faveur, de répondre à une simple question que je vais vous poser. Vous portez des souliers de cuir, un chapeau de feutre, des bretelles peut-être. Vous vous servez en ce moment d'un couteau dont le manche est en os. Comment pouvez-vous concilier de tels abus avec les sentiments fraternels que vous venez d'exprimer? Songez-vous qu'il a fallu égorger d'innocents quadrupèdes pour que ce faste criminel vous fût accordé? Je n'essaierai pas de vous dépeindre l'enthousiasme de l'auditoire. Ce fut une clameur générale, un délire. On applaudissait, on trépignait, on aboyait, on imitait des cris d'animaux. Juste le succès d'un cabotin de café-concert. Lorsqu'un peu de calme se fut rétabli dans la fourrière, la première parole articulée qui se fit entendre sortait du groin désopilant et fariboleur de mon vis-à-vis. Il gueulait ceci. « Ah, pour le coup, mon bonhomme, tu as ton compte !» Il en était au tutoiement. « Il n'y a pas à dire, mon bel ami, cette fois c'est un théologien qui t'interroge, un ministre des hôtels, Mildiou. Qu'est-ce que tu vas lui répondre, viedaz ?» La réponse fut telle qu'un silence général succéda. À l'exception du dernier chenapan qui avait parlé, tous les fronts se penchèrent sur leurs assiettes, visiblement inquiets d'une plaisanterie qui allait si loin. J'avançai la tête pour voir le souffre-douleur. Il pleurait, le visage dans ses deux mains. Vous savez, Cagougnol, si c'est dans ma nature de supporter que les faibles soient opprimés devant moi. Je me levai donc au milieu de la stupeur, et faisant le tour de la table, je vins frapper du plat de la main l'épaule du mastodonte. La claque, je crois, fut assez retentissante et faillit lui faire perdre l'équilibre. « Debout !» dis-je. Il se retourna d'un bloc en grognant comme un sanglier. Mais s'il eut quelques velléités d'indignation, je vous jure qu'aussitôt après m'avoir regardé, il perdit tout besoin d'évacuer ce sentiment généreux. Je le contraignis à se lever et, l'amenant jusqu'à sa victime qui pleurait toujours et qui n'avait pas relevé la tête, je lui dis encore « Vous avez insulté bassement et ignoblement un chrétien qui ne vous faisait aucun mal. Vous allez, n'est-ce pas, lui demander pardon. Ce sera peut-être une leçon profitable pour quelques-uns des lâches qui nous écoutent. » Comme il faisait mine de protester, je lui replantai la main dans la nuque avec une telle furie d'autorité qu'il tomba sur ses genoux aux pieds du bonhomme glacé de stupéfaction. « Maintenant, ajoutai-je, vous allez, à haute et distincte voix, vous humilier devant celui dont vous êtes l'offenseur. Sinon, je jure Dieu que je vous arracherai la peau avant que nous sortions de cette écurie. Quant à vous, monsieur, laissez-moi faire. J'accomplis un acte de justice, non pour vous, mais pour l'honneur de Marie, qu'on outrage un peu trop ici. » J'expérimentai une fois de plus en cette occasion
l'étonnant pouvoir d'un seul homme qui déploie son âme et l'incomparable couardise des blagueurs. Celui-là demanda pardon à genoux, comme je l'avais exigé, ajoutant, pour sauver au moins une plume de sa dignité de plaisant cafard, qu'il n'était pas un cosaque et qu'il n'avait pas eu l'intention de faire souffrir. L'autre le releva en le serrant dans ses bras et j'allai me coucher. Telle est la première partie de mon aventure, qui sera, si vous le permettez, un diptyque. Chapitre 15. Notre conteur vous plaît-il ? Demanda Cagougnol à Clotilde. Pour toute réponse, elle eut le geste universel qui fit sourire Marchenoir de rapprocher vivement les deux mains et de les porter au-dessus du sein gauche en élevant un peu les épaules. De fait, la transformée subissait une violence extraordinaire. La rencontre de Marchenoir était pour elle une révélation, une sortie du néant. Ce n'étaient pas précisément les choses qu'il disait, mais sa grande façon de les dire qui la pénétrait. Jusqu'alors, elle avait profondément ignoré qu'il y eût de tels hommes. La notion même de ce genre de supériorité lui était inconnue. Et voilà que, n'ayant jamais rien soupçonné de ses propres facultés intellectuelles, du premier coup, elle se voyait sous l'action du maître le plus capable de les dilater instantanément. Cette action souveraine était si sûre qu'il suffisait à l'excitateur de dire n'importe quoi pour qu'elle se sentît transportée au-dessus d'elle-même. Elle ne s'étonnait déjà plus d'avoir pu trouver quelque objection plus ou moins valable quand il lui parlait seul à seul au jardin des plantes. Évidemment, ne fût-ce que pour une heure, il devait élever à lui ceux qui l'écoutaient avec attention. En un mot, la charmante fille avait été tellement préservée par sa nature de la moutarde contagieuse des rues de Paris qu'à 30 ans, elle avait encore la fleur d'enthousiasme de l'adolescence la plus généreuse. « N'est-ce pas touchant ?» disait encore Pélopidas, de la voir écouter ainsi. « Plût à Dieu que mes pauvres œuvres fussent contemplées avec la même affection. » Mais il est exaspérant de penser, mon pauvre bouche d'or, que les sales crapauds qui vous envient ce don-là soient précisément consolés par votre mépris. Car il se dit un peu partout que vous ne vous prodiguez pas. Laissons cela, je vous prie. Vous savez mes sentiments sur ce point. J'écris le moins sottement que je puis ce que j'estime devoir être notifié à notre génération vomitive. Pour ce qui est de la palabre conférencière ou politique, raca. En supposant que ma parole fût aussi puissante que certains entrepreneurs de démolition me l'ont affirmé, et qu'elle eût le pouvoir de changer la forme des montagnes, comme le vent de feu qui souffla contre Sodome, je n'échangerai pas ma rêverie solitaire contre le tréteau d'un flagorneur de la populace. J'aime mieux parler aux bêtes. Ce soir, c'est à vous que je parle, et surtout à mademoiselle, avec le plus grand plaisir. » Gacougnol se mit à rire, et s'adressant à Clotilde, restée sérieuse, « Mon enfant, si vous connaissiez le barbare qui nous honore de ce madrigal, vous sauriez qu'il n'y a que lui au monde qui ait le secret de dire à ses amis tout ce qu'il lui plaît de leur dire sans les offenser. » Clotilde parut surprise de l'observation. « Et comment Monsieur Marchenoir pourrait-il nous offenser ? Je vois bien qu'il n'est pas à la même place que les autres hommes, et quand il parle aux bêtes, je devine bien que c'est à Dieu qu'il parle. »« Mademoiselle, » intervint Marchenoir, « si j'avais eu quelques doutes, ce dernier mot me prouverait que vous méritez la fin de l'histoire. » Le lendemain du petit drame que je viens de vous raconter, la première personne que j'aperçus près de la fontaine fut mon protégé.
Il priait en grand recueillement, et je pus l'observer. C'était un homme d'aspect vulgaire, vêtu de façon presque misérable. Il devait avoir dépassé 50 ans et portait déjà les marques d'une caducité prochaine. On devinait aisément que toutes les giboulées du malheur s'étaient acharnées sur lui. Sa figure timide et souffreteuse eût été complètement insignifiante, sans une expression de joie singulière qui paraissait être l'effet d'un colloque intérieur. Je voyais ses lèvres s'agiter faiblement, et parfois sourire de ce doux et pâle sourire de quelques idiots ou de certains êtres pensants dont l'âme serait immergée dans un gouffre de dilection. Ses yeux, surtout, m'étonnèrent. Fixés sur la Vierge lamentatrice, il lui parlait comme 100 bouches auraient parlé, comme tout un peuple de bouches suppliantes ou laodicènes. J'imaginais, sur le registre divin, où les vibrations des cœurs seront un jour transposées en ondulations sonores, tout un carillon de louanges, de divagations amoureuses, de remerciements et de désirs. Il me sembla même, et depuis des ans je garde cette impression, que du milieu des montagnes environnantes, ceinturés alors d'éclatants brouillards, 1000 fils de lumière, d'une ténuité et d'une douceur infinie, venaient aboutir au visage calamiteux de cet adorant, autour de qui je crus voir flotter un très vague effluve. Le jeannetin de la veille avait, comme vous voyez, quelque peu grandi. Quand il eut fini sa prière, ses yeux rencontrèrent les miens. Il vint à moi, et, se découvrant, « Monsieur, dit-il, je serais heureux de vous entretenir un moment. Voulez-vous me faire l'honneur de m'accompagner quelques pas ?»«
Très volontiers, répondis-je. »
Nous allâmes nous asseoir derrière l'église, au bord du plateau, en face de l'Obiou, dont le soleil encore invisible sous les vapeurs éclaboussait en ce moment la cime neigeuse.
« Vous m'avez fait beaucoup de peine hier soir, commença-t-il. Je n'ai pu vous arrêter, malheureusement, et j'en suis très affligé. Vous ne me connaissez pas. Je ne suis pas un individu à défendre. Autrefois, quand je ne me connaissais pas encore moi-même, je me défendais tout seul. J'étais un héros. J'ai tué un ami en duel pour une plaisanterie. Oui, monsieur, j'ai tué un être formé à la ressemblance de Dieu qui ne m'avait pas même offensé. On appelle ça une affaire d'honneur. Je l'ai frappé en pleine poitrine, et il est mort en me regardant sans dire un mot. Ce regard ne m'a pas quitté depuis 25 ans. Et au moment où je vous parle, il est là-haut, juste devant moi, sur cette vieille colonne du firmament. Quand je me représente cette minute, je suis capable de tout endurer. Ma seule consolation et mon seul espoir, c'est qu'on se moque de moi, qu'on m'insulte, qu'on me traîne le visage dans les ordures. Ceux qui font ainsi, je les aime et je les bénis de toutes les bénédictions d'en bas, parce que, voyez-vous, c'est la justice, la vraie justice. Vous vous êtes mis en colère et vous avez abusé de votre force contre un pauvre homme dont je ne mérite pas certainement de décrotter la chaussure. Vous m'avez forcé à prier pour lui toute la nuit, étendu devant sa porte, ainsi qu'un cadavre, et ce matin, je l'ai supplié par les 5 plaies de notre Sauveur de me marcher sur la figure. Vous m'avez vu pleurer, et c'est cela qui vous a ému, parce que vous êtes généreux. J'ai eu tort, mais je ne peux pas m'en empêcher quand c'est un prêtre qui me parle, parce qu'alors je vois en lui un juge qui me rappelle que je suis un assassin et la dernière de toutes les canailles.
Oh, monsieur, n'essayez pas de me justifier, je vous en conjure, ne me dites rien d'humain. Je vous le demande pour l'amour de Dieu qui s'est promené sur cette montagne. Tout ce qui peut colorer une infamie, croyez-vous que je ne me le suis pas dit à moi-même et que d'autres encore ne me l'aient pas dit? Jusqu'au jour où il me fut donné de comprendre que j'étais un abominable, cet homme que j'ai assassiné avait une femme et deux enfants. La femme est morte de chagrin, entendez-vous? Moi, j'ai donné 1 million pour les orphelins. Si je n'ai pas tout donné, c'est que des raisons de famille s'y opposaient. Mais j'ai promis à la douce Vierge de vivre jusqu'à ma dernière heure à la façon d'un mendiant. J'espérais ainsi que la paix reviendrait en moi, comme si la vie d'un membre de Jésus-Christ pouvait être payée avec des écus. C'est l'argent des princes, des prêtres que j'ai donné à ces pauvres enfants, traités en petits Judas par le meurtrier de leur père. Ah bien oui, elle n'est jamais revenue, la paix divine, et je suis crucifié tous les jours. Je vous dis cela, monsieur, parce que vous avez eu de la pitié et que vous pourriez concevoir de l'estime. Je suis encore trop lâche pour raconter ma vie à tout le monde, ainsi que je le devrais peut-être, et comme le faisaient les grands pénitents du Moyen-Âge. J'ai voulu me faire trappiste, puis chartreux. On m'a déclaré partout que je n'avais pas la vocation. Alors je me suis marié, pour souffrir tout mon sou. J'ai pris une vieille prostituée de bas étage, dont les matelots ne voulaient plus. Elle me roue de coups et m'abreuve de ridicule et d'ignominie. Je ne la laisse manquer de rien, mais j'ai mis en lieu sûr les débris de ma fortune, qui fut assez considérable. C'est le bien des pauvres, sur lequel je prélève de faibles sommes pour mes voyages. L'année dernière, j'étais en Terre Sainte. Aujourd'hui, je suis à la Salette pour la 30e fois. On doit me connaître. C'est ici que j'ai reçu les plus grands secours, et j'engage tous les malheureux à faire ce pèlerinage. C'est le Sinaï de la pénitence, le paradis de la douleur, et ceux qui ne le comprennent pas sont bien à plaindre. Moi, je commence à comprendre, et quelquefois j'obtiens d'être délié pendant 1 heure. Il s'arrêta, et je me gardais bien de rompre ses pensées. J'eusse été d'ailleurs assez peu capable de proférer un seul mot qui ne m'aurait pas semblé ridicule en présence de ce forçat volontaire, de ce stylite colossal de l'expiation. Quand il se remit à parler, au bout d'un instant, j'eus la surprise d'une transformation inouïe. Au lieu de ce pathétique formidable qui venait de me serrer toutes les fibres autour du cœur, à la place de cette houle de remords, de ce volcan de plaintes qui lançait partout ses laves d'angoisse, la voix humble et mystérieusement placide que j'avais entendue la veille. « On me raille souvent, disait cette voix, à propos des bêtes. Vous en avez été le témoin. Je crois deviner en vous un homme d'imagination. » Vous pourriez soupçonner, par conséquent, me supposant un zèle admirable peut-être, mais indiscret, que je me suis donné ce ridicule à plaisir. Il n'en est rien. Je suis véritablement fait comme cela. J'aime les animaux, quels qu'ils soient, presque autant qu'il est possible ou permis d'aimer les hommes, quoique je sache très bien leur infériorité. J'ai quelquefois désiré, je l'avoue, d'être tout à fait imbécile, afin d'échapper complètement au sophisme de l'orgueil. Mais ce désir ne s'étant pas réalisé jusqu'ici, je n'ignore nullement ce qui peut être l'occasion du mépris dans cette manière de sentir qui va chez moi jusqu'à la passion et que des personnes très sages ont réprouvée. N'est-ce point un malentendu? Serait-ce que la plupart des hommes ont oublié qu'étant eux-mêmes des créatures,
ils n'ont pas le droit de mépriser l'autre côté de la création. Saint François d'Assise, que les plus impies ne peuvent se défendre d'admirer, se disait le très proche parent, non seulement des animaux, mais des pierres et de l'eau des sources. Et le juste Job ne fut pas blâmé pour avoir dit à la pourriture « Vous êtes ma famille ». J'aime les bêtes parce que j'aime Dieu et que je l'adore profondément dans ce qu'il a fait. Quand je parle affectueusement à une bête misérable, soyez persuadés que je tâche de me coller ainsi plus étroitement à la croix du Rédempteur, dont le sang, n'est-il pas vrai, coula sur la terre avant même de couler dans le cœur des hommes. Elle était bien maudite pourtant, cette mère commune de toute l'animalité. Je sais aussi que Dieu nous a livré les bêtes en pâture, mais il ne nous a pas fait un commandement de les dévorer au sens matériel, et les expériences de la vie ascétique depuis quelques dizaines de siècles ont prouvé que la force du genre humain ne réside pas dans cet aliment. On ne connaît pas l'amour parce qu'on ne voit pas la réalité sous les figures. Comment est-il possible de tuer un agneau, par exemple, ou un bœuf, sans se rappeler immédiatement que ces pauvres êtres ont eu l'honneur de prophétiser, en leur nature, le sacrifice universel de notre Seigneur Jésus-Christ? Il me parla ainsi très longtemps, avec une grande foi, un grand amour, et je vous prie de le croire, avec une science, ou plutôt une divination merveilleuse du symbolisme chrétien, que j'étais infiniment éloigné d'attendre de lui. Plût à Dieu qu'il me fût possible de vous redire exactement toutes ces paroles. Je dois beaucoup à cet homme simple qui me donna en quelques entretiens la clé lumineuse d'un monde inconnu. Vous le savez, mademoiselle, toute cette histoire est venue à propos des bêtes. Eh bien, je vous assure qu'il était prodigieux quand il en parlait. Pluria des grands éclats déchirants de sa première confidence. Plus de tempêtes, plus de météores douloureux. Un calme divin et quelle candeur. Paisiblement, il s'allumait comme une toute petite lampe d'accoucher dans une demeure gardée par les anges. En l'écoutant, je me souvenais de ces bienheureux qui furent les premiers compagnons du séraphique, dont les mains, pleines de fleurs, ont parfumé l'Occident. Et je le revoyais aussi, tous les autres saints. Et je revoyais aussi tous les autres saints de jadis, dont les pitoyables pieds nous ont laissé quelques grains du sable des cieux. Le peu que je vous ai rapporté de ces discours a dû vous faire entrevoir qu'il ne s'agissait pas de ces transports imbéciles qui sont peut-être le mode le plus dégoûtant de l'idolâtrie. Les animaux étaient pour lui les signes alphabétiques de l'extase. Il les lisait en eux, comme les élus dont j'ai parlé, la seule histoire qui l'intéressa, l'histoire sempiternelle de la Trinité qu'il me faisait épeler dans les caractères symboliques de la nature. Mon ravissement fut inexprimable. À ses yeux, l'empire du monde perdu par le premier désobéissant ne pouvait être reconquis que par la restitution plénière de tout l'ancien ordre saccagé. Les animaux, me disait-il, sont dans nos mains les otages de la beauté céleste vaincue. Parole étrange, dont je n'ai pas encore mesuré toute la profondeur. Précisément parce que les bêtes sont ce que l'homme a le plus méconnu et le plus opprimé. Il pensait qu'un jour Dieu ferait par elles quelque chose d'inimaginable quand serait venu le moment de manifester sa gloire. C'est pourquoi sa tendresse pour ces créatures était accompagnée d'une sorte de révérence mystique assez difficile à caractériser par des mots. Il voyait en eux les détenteurs inconscients d'un secret sublime que l'humanité aurait perdu sous les frondaisons de l'Éden, et que leurs tristes yeux couverts de ténèbres ne peuvent plus divulguer depuis l'effrayante prévarication. Marche Noire ne disait plus rien.
accoudé sur la table et se pressant les tempes du bout des doigts dans une de ses attitudes familières, il regardait vaguement devant lui, ayant l'air de chercher au loin quelque grand oiseau de proie désespéré d'être sans capture qui refléta sa mélancolie. Timidement, Clotilde lui présenta la question qu'on voyait errer sur les lèvres de Pélopidas. « Qu'est devenu ce monsieur ?»« Ah oui, mon histoire ne serait pas complète. Je ne l'ai jamais revu, et j'ai appris sa mort, un an plus tard, par un de mes compatriotes établi dans la petite ville qu'il habitait en Bretagne, au bord de la mer. Il est mort de la façon la plus terrible, et par conséquent la plus désirée par lui, c'est-à-dire dans sa maison, sous l'œil de l'abominable Xanthippe qu'il avait choisi tout exprès pour le torturer. Frappé de paralysie peu de temps après notre rencontre, il ne voulut pas qu'on le transportât dans quelque maison de santé où il eût pu être exposé à s'éteindre en paix. Ayant vécu en pénitent, il lui plut de râler et de mourir en pénitent. Il paraît que sa femme le faisait coucher dans les ordures. Les détails sont affreux. On crut même un instant qu'elle l'avait empoisonné. Il est certain qu'elle devait être impatiente de sa mort, espérant hériter de lui. Mais les précautions étaient prises depuis longtemps, ainsi qu'il me l'avait dit, et le reste de son patrimoine est allé dans les mains des pauvres. Le bail de cette cuisinière de son agonie expirait naturellement avec lui. Maintenant, mon histoire est tout à fait finie. Vous voyez qu'elle n'était pas très compliquée. Je voulais simplement vous faire voir, tel que je l'ai vu moi-même, incomplètement, hélas, un être humain tout à fait unique, dont je suis persuadé qu'il n'existe pas d'autre exemplaire dans le monde entier. Sans la lettre trop précise de mon correspondant de Bretagne, je serais parfois tenté de me demander si tout cela fut bien réel, si cette rencontre fut vraiment autre chose qu'un mirage de mon cerveau, une espèce de réfraction intérieure du miracle de la salette qui se serait ainsi modifié en passant à travers mon âme. Le pauvre homme est resté là comme une similitude parabolique de ce christianisme gigantesque d'autrefois dont ne veulent plus nos générations avortées. Il représente pour moi la combinaison surnaturelle d'enfantillage dans l'amour et de profondeur dans le sacrifice, qui fut tout l'esprit des premiers chrétiens autour desquels avait mugi l'ouragan des douleurs d'un Dieu. Bafoué par les imbéciles et les hypocrites, indigent volontaire et triste jusqu'à la mort quand il se regarde lui-même, fiancé à tous les tourments et compagnon satisfait de tous les opprobres, ce brûlant de la croix est à mes yeux l'image et le raccourci très fidèle de ces temps défunts où la terre était comme un grand vaisseau dans les golfes du paradis.